qu'il faut réaliser, c'est qu'aujourd'hui, on est tous, même le meilleur des chrétiens, si on pourrait employer cette expression, même si ça ne veut rien dire, mais même le meilleur d'entre nous est confronté à un ou des géants dans sa vie. Alors, c'est pas sous la forme physique, mais c'est sous la forme spirituelle. On est entouré même de géants autour de nous. J'ai pris des exemples, le géant du doute, le géant de l'incrédulité, le géant de la faiblesse, des faux raisonnements, de la maladie, du découragement, du mépris, de l'indifférence, de la peur, etc., etc. Tout ce qui dans notre vie nous fait chanceler peut être qualifié d'un géant, peut être qualifié de quelque chose qui est plus fort que nous. Quand on regarde le combat entre David et Goliath à vue humaine, mais qui aurait parié sur David? Qui? Même le roi Saül ne l'a pas fait. Bon, il était dans un contexte spirituel, Saül, qui était pas terrible, puisque l'Esprit de Dieu l'avait laissé à cause de ses mauvaises attitudes de cœur. Mais même lui, il aurait pu se dire quand même, s'il compte sur le Seigneur, ça va aller. À vue humaine, on peut facilement se laisser tromper par les géants. Alors, on va lire quelques versets, on va pas tout lire. Si vous voulez être au fait de cette histoire, relisez 1 Samuel 17 en entier. On va se contenter de commencer au verset 10. Donc c'est Goliath qui est en train de parler. Et voilà ce qu'il est dit. Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés, saisis d'une grande crainte. Au verset 16, le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grain rôti et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères, porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien, des bagages, et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. On va au verset 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, sous-entendu, qui est cet incirconcis pour parler contre Dieu, hein, c'est ça les paroles de David. On les répéta à Saül, qui le fit chercher? David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec cet homme, ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappai et je le tuai. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger. et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, je ne sais pas ce que vous auriez dit à sa place, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille, à la rencontre du Philistin, pas en arrière. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre, la lança avec sa fronde, il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, et se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Amen. On a l'impression de voir un film d'action, là. Ceux qui ont vu le film 3, avec les armées qui se confrontent, c'est vraiment ce qui s'est passé. Alors on peut plus ou moins aimer le spectacle, parce que c'est quand même pas facile la guerre. Mais j'aimerais revenir sur ce verset 50, qui pour moi est la réponse à la question qu'on a posée tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut renverser les géants ? Régner dans la vie, ça veut dire renverser des géants. Mais comment est-ce que c'est possible ? David a réussi à le faire. David, avant d'être le roi d'Israël, a dû combattre un et même plusieurs géants, et il a réussi à les renverser à chaque fois. Si c'est pas lui, c'est ses hommes, c'est ses serviteurs qui l'ont fait pour lui, parce qu'il leur avait montré l'exemple. Et je crois qu'il y a une leçon puissante à tirer pour pouvoir avoir la victoire dans nos vies spirituelles, de regarder à l'exemple de David et de réaliser que il a fait ce qu'il fallait. Il avait déjà ce cœur qui cherchait Dieu, oui, mais il avait aussi une attitude particulière. Et on va s'intéresser aux mains de David. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais à plusieurs reprises, les questions des mains dans ce passage. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce que David faisait avec ses mains. Ça nous montre ce qu'il y avait dans son cœur. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on peut faire de bonnes choses avec nos mains, et dans notre cœur, on pense carrément au mal des personnes. Mais David, on le voit dans ce passage, ce qu'il faisait avec ses mains reflétait son cœur. Avant de parler de David, on va parler de Goliath. Que fait Goliath ? Depuis le début, Goliath se présente pour impressionner le peuple d'Israël. On pourrait dire même pour faire peur. Imaginez, la Bible nous dit qu'il faisait près de 3 mètres, 50 kilos de cuirasse. Juste la cuirasse pesait 50 kilos. Vous imaginez ? L'armure qu'il avait. La lance était énorme. La pointe de la lance, il nous est dit qu'elle faisait 6 kilos, juste la pointe. Donc ça vous laisse imaginer la lance. Et donc ce petit bonhomme vient faire son chemin jusqu'au milieu du camp, des deux camps. Juste son apparence fait trembler tout le monde, on est d'accord. Et il faut se souvenir que c'est un temps de guerre. Donc, qui dit guerre dit épée, combat à l'épée. Et quand on voit se dresser devant nous un géant, une armoire à glace comme ça, ça peut nous faire réfléchir sur le combat, on est d'accord. Ça peut nous faire ramener à avoir des raisonnements. Mais non seulement il se présente là, et juste sa présence fait peur, mais en plus il défie, en plus il provoque, il isole, il met la pression en disant « Donnez-moi juste un homme !» Normalement, les armées s'affrontaient directement. Mais lui, il dit « Non, on va résoudre ça d'homme à homme. » Et parfois, on peut être face à des géants, ensemble on peut être fort, mais tout seul, confronté à un géant, on peut se sentir très faible. Vous êtes d'accord ? Et puis, il commence à parler en disant, si vous avez la victoire, alors c'est nous qui serons vos esclaves. Mais si c'est nous, alors ça va barder. Est-ce que ça vous rappelle pas quelqu'un qui aime bien utiliser le si dans nos vies pour nous parler? Oh, si Dieu existait vraiment, est-ce qu'il n'aurait pas répondu à ta prière déjà? Et vous voyez que ce sont des paroles qui semblent cohérentes avec la situation, mais on s'aperçoit que derrière Goliath, il y a une image très forte des géants qui nous entourent, de l'ennemi qui veut nous détruire et qui essaye d'insuffler le doute par toutes sortes de moyens. Et puis, il insiste, 40 jours. Imaginez, pendant 40 jours, vous entendez ce genre de paroles. Alors, on peut se dire, oui, moi, mon épreuve, elle dure plus que 40 jours. Mais imaginez que Goliath est venu et a persévéré et a dit cela. Et à chaque fois qu'il disait cela, ben, le peu de courage qui restait dans le cœur des Israélites était en train de disparaître. Souvent, les difficultés, les épreuves durent. C'est pas un secret. Et il faut le savoir, il faut le prendre en compte. Les soucis de la vie ne se résolvent pas en un claquement de doigts. Des fois, ça arrive, par la puissance du Seigneur, mais des fois, ça met du temps. Et à certains, ça a duré 40 jours, d'autres, ça a duré 40 ans. Donc, on peut relativiser les choses. Et puis, quand il voit arriver ce beau jeune homme blondiné, il le méprise. Il y a le mépris qui est là. Et puis, il y a même, il maudit, au nom de ses dieux, il maudit David. Vous voyez qu'il y a vraiment toute une atmosphère qui est pesante. Non seulement il y a le géant, l'apparence du géant, mais il y a toute cette atmosphère spirituelle qui l'accompagne, que l'on retrouve facilement aujourd'hui. Alors, je veux pas faire l'oiseau de mauvais augure qui dit que tout va mal, tout est noir, etc. Mais il faut quand même être, conscient de ce qui nous entoure aujourd'hui. Il y a des géants aujourd'hui, il y a le géant de la peur, et quand on écoute les informations, quand on écoute les gens qui nous entourent, on entend le géant qui parle. Tout le monde a peur de ce qui va se passer, on se demande comment on va y arriver. Il y a le géant du mépris autour de nous. Quand on dit qu'on a la foi, les gens rigolent, les gens se moquent, il y a des insultes même, il y a toutes sortes de façons de réagir qui sont particulières, alors que on est dans un pays libre. Et la laïcité qu'on emploie si souvent est une, normalement, doit être la défenseuse de l'expression personnelle de chacun. C'est aussi simple que ça. Sauf qu'on emploie ce mot maintenant comme pour persécuter ceux qui ont la foi, de manière générale. Et on pourrait se dire que tout ça, ce sont des géants qui nous entourent. Mais le Seigneur nous invite à être de ceux qui prennent position face au géant. Le géant de la colère, est-ce que ça vous arrive parfois de vous laisser submerger par les circonstances, que l'émotion vienne jusqu'au fond du ventre et puis vous pousse à faire des choses? Le géant de la colère nous pousse parfois à faire des choses que l'on regrette après. Et on a besoin de veiller sur nos propres vies. On a besoin de réfléchir à ce que l'on fait avant de le faire. On a besoin de réfléchir à nos paroles avant de parler. Et tout ça, ce sont des combats qu'il y a et qui sont invisibles, mais qui sont réels et que chacun nous connaissons. Le géant de la solitude, quand on se retrouve seul face à une situation, exactement comme disait Goliath, donnez-moi un homme, on va se battre. Quand on se retrouve seul face à une situation, ben, on a l'impression de ne pas être à la hauteur. Et on a raison. Parfois, la solution se trouve simplement dans la communion fraternelle. C'est aussi simple que ça, mais quand on se réunit les uns avec les autres, y compris, la situation va pas forcément changer, mais le fait d'avoir à côté de nous un frère et une sœur, il y a quelque chose qui se passe. On l'a chanté en plus tous unis, hein, on est une famille. Et quand on est cette chaîne, on peut tenir face aux géants qui nous entourent. On voit autour de nous le géant de l'impatience, je le disais tout à l'heure, quand l'épreuve dure, un jour, deux jours, une semaine, un mois, une année, 10 années, comment est-ce que nous nous comportons? Et je pourrais multiplier, faire les parallèles avec ce géant, mais je voudrais attirer notre attention sur ce que David a fait avec ses mains. Ce que David a fait avec ses mains nous montre ce qu'il y a dans son cœur. Et la question qui va se poser à nous, c'est qu'est-ce qu'il y a dans nos mains? Et qu'est-ce que nous en faisons? Alors, vous comprenez bien, c'est pas seulement nos mains, mais c'est nos actions. Qu'est-ce que nous faisons de notre vie même tout entière? Est-ce que nous la mettons au service du Seigneur ou pas? Trois choses que je vais dire. David avait les mains du serviteur. David avait les mains du berger. David avait les mains du guerrier. Et ce sont des images spirituelle par rapport à nos vies. Si nous voulons renverser des géants, il faut que nous ayons cette évolution dans notre propre vie. Les mains du serviteur d'abord. David a reçu l'onction de Samuel. David, dans tout son village, il est connu pour être le futur roi. Pourtant, il est derrière les brebis, dans les pâturages, loin de tout le monde encore. Sa situation professionnelle n'a pas évolué du tout. Il n'a pas eu d'augmentation. Peut-être que son père le considère un petit peu mieux, mais c'est là encore, son père l'utilise pour faire juste un coursier, pour aller voir ses frères, pour prendre soin de ses frères. Oh, combien il aime ses fils. Combien il aime ses fils forts qui sont à la guerre. Il faut en prendre soin. Donc il envoie le petit jeuneau, David, porte-leur à manger. Et même il prend soin des autorités qui ont la charge de ses frères. Vous avez vu, 10 fromages pour le chef de millier. Et moi je me demande, est-ce que David, lui, il avait part à tout ça à la maison? J'étais même pas sûr. Mais qu'est-ce qu'il fait, David? Est-ce qu'il ronchonne? Est-ce qu'il râle? Est-ce qu'il dit, oh, mais je suis le futur roi après tout? C'est pas mon travail, ça. Moi, je mérite mieux. David, il a les mains du serviteur. Il a le cœur du serviteur. Et il prend donc ses bagages. Et il est dit qu'il se lève de bon matin. Vous voyez qu'il fait les choses comme il faut. Il se lève pas à midi. Il se lève de bon matin pour faire la route, parce qu'en plus c'était à pied. Et puis il va rejoindre ses frères. Il dépense tout ça à celui qui garde les bagages, et puis il va voir ses frères, mais en plus il va prendre des nouvelles, il va près de ses frères. On voit qu'il est pas dans la rancune, lui il est pas dans l'amertume, il est dans l'amour fraternel véritable. Ça, ce sont les choses que Dieu aime. Et si nous pouvons remporter des victoires dans nos vies, c'est que déjà à ce niveau, nous avons remporté la victoire de ne pas avoir de l'amertume, de ne pas être rancunier, de pas rester sur nos blessures et de jamais accorder notre pardon si on a été blessé. Ça vous est déjà arrivé? Bon, dites-le qu'à moi, hein. Mais ça vous est déjà arrivé d'être blessé? Même par des gens de l'église? Ça vous est déjà arrivé? Ben oui. Pourquoi? Parce qu'on est humain. Et je vais faire encore l'oiseau de mauvaise augure, mais ça vous arrivera encore. Parce qu'on est humain. Mais on essaye. On fait tout notre possible pour ne pas le faire, bien sûr. Mais même parfois, sans le vouloir, on peut être préoccupé par quelque chose et ne pas dire bonjour à quelqu'un. Et voilà, le mal est fait. Vous êtes d'accord? C'est pas surprenant ce que je dis. Mais David, il choisit d'avancer. Il choisit d'aller plus loin. David, il a les mains du serviteur qui se mettent au service donc de son père. Mais il sait que par derrière tout cela, pour l'instant, il est sous l'autorité de son père. Donc il se soumet. Mais il sait que par derrière tout cela, il est en train de se soumettre à Dieu. Combien c'est important de réaliser que l'autorité sous laquelle on est placé, quel que soit le poste que nous occupons dans notre vie, c'est une image de l'autorité spirituelle. C'est Dieu qui nous place là pour nous apprendre à nous soumettre aussi. D'accord? Se soumettre, ça ne veut pas dire faire tout ce que la personne qui est au-dessus de moi me demande de faire sans réfléchir. On est d'accord? Oui ou non? Des fois, les gens qui sont au-dessus de nous nous disent n'importe quoi. Moi, je me souviens, j'avais des patrons. Des fois, ils demandaient de délater. Et je l'expliquais cette semaine à quelqu'un. Je disais, voilà, c'était un monsieur. Je vous remets le contexte. Un monsieur dont le papa avait eu un grave accident dans l'usine où on travaillait. Le bras arraché, pour vous expliquer vraiment. Et donc, l'usine qui n'était totalement en tort, c'était un problème de sécurité, de vétusté, de tout ce que vous voulez. Elle savait qu'elle était en tort. Ils ont dit, bon, on va te donner une forte somme d'argent pour que tu te taises. Et puis, ton fils qui est là dans l'usine, il va devenir un des chefs. Il va monter en grade. C'était le moyen qu'ils avaient trouvé. Et le résultat, c'est que ce monsieur est devenu chef, mais il n'avait pas les compétences pour l'être. Et donc, pour essayer de montrer son autorité, il écrasait les gens, il était méchant, il était dur envers les gens, pour montrer que c'était lui le patron, mais en même temps, dans les connaissances, il n'était pas forcément au calé. Et on en voit des gens comme ça, hein. Parce qu'ils sont pas forcément rassurés dans leur poste, donc ils essaient d'écraser les autres, comme ça, ils s'élèvent. Pas naturellement, superficiellement. Et puis un jour, donc, une erreur avait été commise dans l'équipe où j'étais, c'était pas moi, mais c'est moi qui me suis retrouvé devant l'écran, et il a dit, dis-moi qui a fait l'erreur. Et moi je lui ai dit, je ne vous dirai pas qui a fait l'erreur, c'est l'équipe qui a fait l'erreur. J'ai fait bloc, avec l'équipe. Et donc, il a insisté. Et moi, je suis resté ferme. Et du coup, il a pu rien dire. Parce que c'était pas moi directement qui était le fautif. Mais en même temps, je fais corps avec celui que je savais pertinemment qui avait fait l'erreur. Et quand on est unis, quand on est un, alors ça, c'est une façon de faire dans le monde du travail, eh bien, on peut résister aux géants et on peut remporter la victoire. Et combien c'est vrai de manière spirituelle, quand on s'unit dans la communion fraternelle, on peut remporter la victoire. Il y a un ennemi, il va tout faire pour nous mettre à l'écart. Il va tout faire pour nous isoler. Parce que quand on est seul, qu'est-ce qu'on est fragile? Qu'est-ce qu'on est fragile quand on est seul? Vous avez déjà vu un maillon tout seul? Ben, on peut en faire ce qu'on veut, on le tape dessus, on peut le tordre avec des outils qu'il faut. Mais quand c'est une chaîne, ça commence à être plus compliqué. David avait compris qu'il fallait qu'il se mette au service de son père et au service de Dieu. Et puis il avait ses mains de berger aussi. Quand il entend le défi, dans son cœur, il y a quelque chose qui monte, il y a une rage qui monte, pas contre les gens, mais contre l'œuvre de Dieu qui est touchée. Or, la Bible nous dit très clairement que le combat que nous avons à mener, c'est pas contre la chair et le sang, c'est pas contre les personnes, mais c'est contre les puissances, les autorités de ce monde de ténèbres qui sont à l'œuvre aujourd'hui, qui ont malheureusement les pleins pouvoirs dans ce monde pour agir. Quand on laisse le péché régner, ben le monde spirituel règne et les ténèbres règnent. Mais David, il voulait pas que ça se passe comme ça. La Bible nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Le voleur, quand Jésus parle du voleur, il parle de manière un petit peu subtile du diable, dont le désir c'est de détruire les vies. Le désir c'est d'arracher ce qui va bien, de le casser en deux. Les cœurs qui sont pleins de joie, il veut leur enlever la joie et mettre la frousse, mettre la peur, mettre les angoisses. Ça, c'est l'œuvre du diable. Et comment est-ce que nous réagissons face à cette œuvre qui se passe autour de nous? Est-ce que nous disons, ben moi je suis très bien, je suis confortable dans le refuge du Seigneur, c'est agréable ce bon fauteuil, je reste là? Ou est-ce que notre cœur il bat de compassion pour les âmes qui nous entourent et qui sont pas dans ce refuge? David, il était comme ça. Il voyait tout le peuple trembler à chaque fois que David, à chaque fois que Goliath parlait, il est dit que le peuple reculait d'un pas. Chaque fois, il tremblait de peur et il reculait. Et David, ça devait être le seul qui restait ferme en disant « Mais personne ne réagit là. Ça vient à l'idée de personne de faire ce qu'il faut. Bon, ben s'il y a personne, ben il y aura au moins un. Ça sera moi. » Les mains du berger, ce sont ces mains qui sont habituées à remporter des combats dans le secret. Vous savez que les petites victoires dans le secret préparent aux grandes victoires qui sont visibles de tous. Et nous, on voudrait tout de suite les grandes victoires où tout le monde nous applaudit. Nous, on voudrait tout de suite que les gens voient que nos prières sont exaucées, alors que dans le secret de nos cœurs, on fait pas forcément ce que le Seigneur nous demande. Que faisons-nous quand nous sommes seuls? David, quand il était seul et qu'il avait une brebis qui était prise par un lion, il courait après le lion. De ses mains, il tapait le lion. Alors, je sais pas ce qu'on aurait fait à sa place, mais lui, il y allait. Et puis, il attrapait le lion par la gorge. Alors, il avait d'autres instruments, un bâton, etc. Donc, on ne sait pas comment ça se passait. Mais on comprend bien que c'était pas David tout seul qui allait. Vous êtes d'accord? David tout seul, il aurait fui comme nous, hein. Mais il savait que c'était, il avait compris que ce que son père lui avait confié, c'était finalement Dieu qui lui avait confié quelque chose. Comment est-ce que je réagis par rapport à ce que Dieu m'a confié? Et David, il y allait. De ses mains, il essayait d'empêcher cette bête féroce qui était là, voler ce qui lui appartenait, ce qui appartenait à son père, ce que Dieu avait mis entre ses mains. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce que nous prenons soin des brebis qui nous entourent? Vous savez que c'est pas que le pasteur qui a des brebis, hein. Des fois, on se dit ça. Oh, c'est lui, l'image de David, là, c'est pour les pasteurs. Bien sûr, ça commence par là. Et je crois que je l'ai dit la semaine dernière, on a besoin d'être des pasteurs, pas des mercenaires. On a besoin d'être animés de cet amour pour veiller sur les brebis, les pasteurs. Et priez pour nous, pour que ça soit de plus en plus vrai et fort. Mais je voudrais vous dire, c'est pas que les pasteurs. Ah, vous allez me dire, c'est les anciens aussi, puisqu'il a dit paisser le troupeau, les anciens, oui, d'accord. Mais c'est tous. Le Seigneur a mis à côté de nous, ou sous notre responsabilité même, quand il s'agit de nos enfants, il a mis des brebis. Comment est-ce que nous veillons sur les brebis? On dit, oh, c'est pas grave, ça va passer. Oh, ils partent dans le monde, c'est pas trop grave. Ils reviendront bien un jour. Ou est-ce qu'on met tout notre cœur et toute notre aide pour aller donner des coups spirituels à l'ennemi? Vous savez comment on donne des coups à l'ennemi? Par la prière. La prière. Est-ce que nous prions avec ce zèle pour ceux qui sont en train d'être déchirés, être dévorés par le péché? Ou est-ce que nous sommes apathiques, indifférents? Ça ira mieux plus tard. Non, le Seigneur veut des guerriers, veut des bergers d'abord, des gens qui, les mains du berger sont là pour prier pour les brebis, pour saisir quand ça va pas, pour agir aussi quand il y a un besoin précis. David n'est pas resté à jouer de la musique aux autres brebis pour passer le temps, pour couvrir le bruit de la brebis qui se faisait déchiqueter, excusez-moi les images, mais elles sont là. David, il a couru après. Il y a des moments où il faut aussi prier, il y a des moments où il faut agir. Je vous l'avais raconté, mais combien c'est une leçon que le Seigneur a mise sur mon cœur. Quand j'étais tout jeune, converti, on priait pour que des jeunes se tournent vers le Seigneur. On avait organisé une soirée pour que les jeunes viennent, entendent parler du Seigneur pour la première fois. Et puis à un moment donné, juste avant le début de la soirée, il y a quelqu'un qui a dit, ah, ça serait bien qu'on prie. Quelqu'un de très spirituel a dit, il faut qu'on prie là encore. Alors j'ai vu tout un groupe partir d'un côté, s'enfermer dans une pièce pour prier. Et puis j'ai vu à ce moment-là, plusieurs personnes nouvelles arrivaient. Et je me suis dit, mince, qu'est-ce qu'il faut faire là? Est-ce qu'on va prier, mais du coup les personnes qui arrivent, ils se retrouvent toutes seules? Ou est-ce qu'on va les accueillir? Eh bien, avec un ami, on a décidé d'aller accueillir les personnes. Et quelques mois après, on a eu la joie de voir une des personnes qui était là se faire baptiser en disant, le Seigneur m'a touché quand j'ai vu l'accueil qu'on m'a fait tel jour, à telle réunion, et donc c'était la réunion qui correspondait. Il y a des fois, il faut prier, il faut le prier. Je ne vais pas être de celui qui dit qu'il ne faut pas prier. Il y a des temps pour prier. Il y a des temps aussi pour agir en conséquence de notre prière. On prie pour que des âmes viennent, on va les accueillir. On prie pour que les malades soient guéris, mais on va visiter les malades, etc., etc. Notre prière ne peut pas rester immobile. Quelqu'un qui prie et qui reste immobile, mais je ne sais pas qui prie, parce que quand on prie le Seigneur, on est rempli de son amour, de son zèle, pour aller vers les gens, pour aller déverser cet amour. David avait compris que quand il se mettait au service de son père, quand il prenait soin des brebis, eh bien, il était en train de servir le Seigneur, à l'image de Jésus, et c'est pour ça qu'il a écrit ce psaume, « L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » L'Éternel est-il votre berger? Amen. Mais l'Éternel veut que vous soyez le berger de quelqu'un. La Bible nous dit, veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. C'est fort quand même. Ça ne veut pas dire surveillons tout ce que font les uns et les autres. Hein. Aujourd'hui, avec tous les appareils électroniques qu'on a, on peut surveiller. Mais c'est pas ça. C'est veiller. Il y a cette dimension d'amour. De prendre soin. Comme un berger prend soin de sa brebis. Notre combat doit être le combat de Dieu. David pouvait aller courir après le lion et l'ours parce qu'il savait que c'était le combat de Dieu. Veiller sur, les uns sur les autres, c'est le combat de Dieu. Là, jamais Dieu ne vous empêchera. Dieu va vous bénir au contraire si vous vous appliquez à ça. Par contre, accomplir ses propres désirs, rester dans son confort spirituel, ça c'est pas le combat de Dieu. Et si vous arrive des tuiles, ne remettez pas la faute au Seigneur. Parce que le Seigneur est celui qui accomplit sa parole. Et sa parole nous dit de le chercher premièrement. Et toutes les autres choses nous seront données. Combattons le combat de Dieu. Est-ce que nous avons l'assurance que le combat dans lequel nous sommes, il vient de Dieu? Quand David s'est présenté face aux géants, il savait que c'était le combat de Dieu aussi. C'est pour ça qu'il savait que Dieu sera avec lui. Il y a des choses que l'on fait où on sait que Dieu est avec nous parce que c'est conforme à la parole. Et puis il y en a d'autres, on n'est pas sûr. Mais dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut chercher la face de Dieu. Être cet homme selon le cœur de Dieu. Après le cœur de Dieu, Seigneur, est-ce que c'est ça? Vous avez vu quand David s'est présenté devant Goliath, l'assurance qu'il avait? Pourquoi il avait cette assurance? Parce que dans son cœur, Dieu lui avait dit qu'il allait être vainqueur. Sinon, il serait jamais allé au combat, hein? Mais il le savait. Il savait qu'il était dans le combat de Dieu. Et la question que je nous pose, est-ce que nous sommes dans le combat de Dieu ou pas? Ou est-ce que nous sommes dans nos propres combats à nous et qu'on met Dieu par-dessus en disant, Seigneur, tu bénis, hein, mais j'essaie de combattre pour les choses qui m'intéressent à moi. Mais là, on n'est pas sûr d'avoir la victoire. Mais quand on combat le combat de Dieu, le Seigneur est avec nous. Et puis les mains du guerrier, on voit que Saül, en voyant la situation, en voyant ce petit jeune homme qui arrive, il est en train de réfléchir humainement à une solution. Et c'est bien, toutes les solutions humaines sont bien. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. Il faut parler, il faut discuter, il faut réfléchir. Mais c'est pas toujours la solution humaine qui est la plus intéressante. Parce que la solution humaine de Saül, c'était qu'il mette l'armure. Saül donne son armure à David. Souvenez-vous que Saül, c'était un mini géant, comparé à Goliath. Mais il était quand même plus grand que tout le monde en Israël. Donc, j'imagine que l'armure de Saül devait pas aller super bien à David, qui était un petit blondinet tout genou. Et donc, une grosse armure sur les épaules, un casque, une belle ceinture, une belle épée, etc. Un bel équipement, mais qui n'arrive plus à bouger. Parfois, on veut faire du copier-coller spirituel, quelqu'un avec une belle expérience avec Dieu, de telle et telle manière, et on veut faire du copier-coller. Fais comme ça, ça va marcher. Mais non. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est de se tenir devant Dieu et de savoir ce que lui, il a prévu. Et David a dit, je vais y aller comme j'ai l'habitude de faire. Qu'est-ce qu'il avait dans les mains? Il a laissé tomber l'armure, il a laissé tomber l'épée, il a laissé tomber le casque, toutes ses armes qui étaient pourtant normales dans cette situation. Et il a pris son bâton, sa fronde. Il a pris 5 petits cailloux. Il y a une image merveilleuse dans ces 5 cailloux. Parce que combien de cailloux il a utilisé pour tuer le géant? 1. Et les 4 autres alors? Eh bien, c'est 4 géants qui ont été tués par la suite. Soit par David, soit par des hommes de David. Mais David avait déjà planifié, presque. Le Seigneur lui avait inspiré de prendre 5 cailloux. Le Seigneur avait déjà prévu que les 5 géants qu'il allait rencontrer dans sa vie allaient être détruits. Et c'est ce que le Seigneur veut nous rappeler ce matin. Tous les géants qui sont là face à nous, le Seigneur a déjà prévu de les renverser. Si nous entrons dans son combat à lui. Je voudrais terminer en faisant ce parallèle. David, quelle armure il avait, finalement? Eh bien, il n'en avait pas. Il avait juste son bâton, sa fronde, son petit sac avec les cailloux, c'est tout. C'est d'ailleurs ce que lui a reproché Goliath. Mais David avait l'armure, la meilleure de toutes. Il avait le Seigneur avec lui. Et vous pouvez comprendre que ça, c'est la meilleure armure de toutes. J'ai cité tout à l'heure Éphésiens 6, vous savez, et il est dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, ou même littéralement, revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme. Il y a des combats, il y a des difficultés, il y a des géants qui nous entourent, mais revêtez-vous de l'armure. Est-ce que vous souvenez c'est quoi l'armure? Petit test biblique. Ça commence par quoi? Le casque du salut, la ceinture de la vérité, il y en a 6. Le soulier du zèle que donne l'évangile de paix, l'épée qui est de l'esprit qui est la parole de Dieu, le bouclier de la foi, et alors, après, qu'est-ce que vous avez pas dit? La cuirasse de la justice. Ok? Est-ce que vous pensiez que David, il avait ça? Lisez les psaumes de David. Et vous allez vous apercevoir qu'à chaque fois qu'il parle à son Dieu, ben il dit soit Dieu de vérité, je vous donne un exemple, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, Dieu de vérité. David, il savait que Dieu c'était le Dieu de vérité. C'était pas sa vérité à lui, hein. C'était la vérité de Dieu qui le protège. C'était pas sa justice à lui. Mais combien de fois il a appelé son Dieu, Dieu de justice. Dieu qui me fait justice. Le salut est auprès de l'Éternel, a-t-il pu dire dans le psaume 3. Le salut, il n'est pas dans nos forces, il n'est pas dans les casques, dans les épées, mais il est auprès de l'Éternel, etc., etc. Juste ce verset, le psaume 18, verset 30, les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Vous voyez que David, il avait compris ce que c'était l'armure spirituelle avant que Paul en parle. Des siècles avant que Paul en parle. Et le résultat, c'est que quand il est allé au combat, face au géant, parce qu'il avait l'armure spirituelle, parce que finalement, pour simplifier, il avait la confiance dans son Dieu, il a été victorieux. Voulons-nous renverser les géants? Est-ce que c'est possible? Humainement, c'est pas possible. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et il faut pas foncer tête baissée en disant « Oui, David a fait ça, donc je vais faire du copier-coller, ça va marcher. » Non, humainement, ce n'est pas possible. Mais en Jésus-Christ, revêtez-vous de Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Paul. Équipons-nous de l'armure que le Seigneur met devant nous. La vérité, l'amour, la paix, la cuirasse de la justice, etc. Oh, revêtons-nous de toute cette grâce que le Seigneur nous donne à la croix. Et avançons. Et le résultat, c'est que le géant est tombé. Et au final, dans la main de David, même si c'est pas trop joli comme image, mais il avait la tête du géant dans sa main. Celui qui avait fait peur à toutes des milliers de personnes était là réduit à néant, parce que Dieu avait combattu pour lui. La victoire appartient à l'Éternel. C'est pas compliqué, hein? La victoire appartient à l'Éternel. Je veux remporter la victoire dans ma vie, eh bien je m'approche du Seigneur. Je laisse le Seigneur régner dans ma vie, automatiquement, c'est lui qui renverse les géants, et c'est ce que le Seigneur veut faire pour chacun d'entre nous. On va fermer les yeux quelques instants, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Je sais qu'il y en a qui se traversent des moments difficiles, ils sont face à des géants, et le Seigneur est celui qui veut remporter la victoire. La victoire, elle est déjà acquise à la croix. Jésus a triomphé de toutes les dominations, de toutes les autorités spirituel. Tout ce qui nous entrave aujourd'hui a été détruit, anéanti à la croix. Maintenant, il faut que nous nous approchions de Jésus-Christ pour vivre cette réalité dans notre vie. Qu'est-ce qui est là en train de te faire trembler dans ta vie? Est-ce que c'est la peur du futur? Est-ce que c'est les gens qui t'entourent et qui se moquent? Est-ce que c'est le mépris des personnes qui sont là autour de toi? Est-ce que c'est le doute simplement, ou l'incrédulité, ou le fait de penser que tu es faible? Et nous sommes faibles. Mais la Bible nous dit que c'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. Parce que nous pouvons faire appel à Dieu, qui est le Tout-Puissant. On a chanté ce chant, on va le rechanter aussi. Le Dieu de victoire est à mes côtés. Et je voudrais encourager tous ceux qui réalisent qu'ils sont face à des géants, que la victoire appartient à l'Éternel. Le Dieu de victoire, c'est lui qui nous permet de triompher. Ce qui a fait que David a pu devenir un roi par la suite, c'est qu'il avait accepté de combattre le géant. Il n'a pas laissé toute sa vie le géant régner, mais il l'a renversé par la puissance de Dieu. Qui ce matin veut dire « Seigneur, j'ai besoin de ton aide ». Tu vois la peur, tu vois l'inquiétude, tu vois la crainte, tu vois, Seigneur, tout ce qui se passe dans mon cœur, qui m'empêche d'avancer. Tu vois, j'essaye de faire comme un tel m'a dit, de mettre l'armure d'un tel et ça fonctionne pas, Seigneur. Montre-moi le chemin. Aide-moi aussi à être de celui qui va prendre soin de ceux qui sont autour de moi. Avoir ce cœur de berger. Seigneur éternel, combien nous bénissons ta sainte présence. Et combien nous réalisons que, oui, il y a des combats, oui, il y a des difficultés, oui, il y a des épreuves qui durent, il y a des géants qui sont là, qui nous menacent, qui nous défient, qui nous confrontent. Mais il y a un Dieu puissant. Et c'est en lui que nous voulons nous réfugier, comme David. Que dans nos cœurs, Seigneur, ce matin, la résolution puisse se graver de marcher dans les traces de David, qui avait ce cœur qui te cherchait continuellement. Que ce que nous avons dans les mains, nous puissions le mettre à ta disposition, Seigneur, pour glorifier ton Saint-Nom, afin qu'il y ait des victoires dans nos vies. Tu vois les difficultés, mais tu es le Dieu qui veut donner la victoire, qui veut donner l'exaucement, qui veut donner la guérison, qui veut donner le rafraîchissement du cœur, qui veut donner que les personnes qui sont éloignées soient ramenées, rapprochées, ramener dans ta présence. Qui d'autre que toi peut faire cela, Seigneur? Seigneur, nous attendons à toi et nous te bénissons. Amen.